Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est mardi soir 19h sur Géopolitique Profonde, la petite chaîne qui monte déjà plus de 41 000 abonnés en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois. Vraiment, là, je vous remercie d'être si nombreux. Alors, vous ne me voyez pas, hein. Vous voyez l'ami Francis Lannes, de toute façon, c'est lui la star, c'est pas moi. Il vient dans les bureaux pour parler de son dernier livre, de son sublime livre. Franchement, je me suis régalé à le lire. Lettre en vers à l'occupant de l'Élysée, à la représentation nationale et au peuple français. Et d'ailleurs, j'ai un petit message à tous ces gens-là, des médias mainstream, qui médisent sur notre ami Francis Lannes. Je peux vous dire, les amis, si vous arrivez à écrire 10%, 10% de ce que lui a écrit en vers et la façon brillante dont il a écrit en vers, ben je peux vous dire que ce moment-là, vous pourrez parler parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Ça, je peux vous dire. C'est vraiment, je me suis, j'ai, cher Francis,
Oui,
j'ai adoré. Voilà,
merci.
je le dis très sincèrement et ben je te pose la question, la première. Cette image-là que le mainstream souhaite te coller, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle te fait souffrir? Parce que, entre nous, je suis sûr qu'ils n'ont pas lu ce livre, qu'ils ne liront pas le livre, ils n'ont pas lu, ils n'ont pas regardé ton œuvre, l'ensemble de ton œuvre, parce que tu es auteur, compositeur, interprète, et ce n'est pas donné à tout le monde. Justement, qu'est-ce que tu penses de ça?
Ce livre est un livre censuré, hein, et là tu es en train d'évoquer le problème de la censure dans notre pays pour tous les artistes et intellectuels dissidents ou russes maintenant. Et bien voilà, c'est ce que je subis, mais d'un autre côté, c'est aussi la marque du fait que je dérange le pouvoir politique avec ce que je dis dans mes livres, dans mes conférences, ce que je dis sur un podium quand je fais un discours. Ça leur pose suffisamment un problème pour qu'ils éprouvent le besoin d'organiser cette censure autour de mes œuvres. Ça fait presque un demi-siècle que mon premier succès est sorti chez les disquaires, hein, c'était la Maison du Bonheur, c'était en 79, c'est donc à peu près il y a 45 ans, hein, 45 ans que j'écris des livres, des disques, que je fais des concerts, que je joue dans des pièces de théâtre, etc. Chaque fois que je sors quelque chose, j'ai toujours été contacté par les différents organes de presse et médiatiques pour venir parler de ce que j'ai réalisé, etc. Là, ça va même encore plus loin, parce qu'il y a eu un attaché de presse qui a été choisi pour proposer le livre. Et partout où on est dans une zone médiatique sous l'influence du pouvoir politique, la réponse a été Francis Lalanne, il n'en est pas question. C'est-à-dire, on regarde même pas ce qu'il a produit. C'est-à-dire, voilà, ça s'appelle de la censure. Ça
Ça te fait
me
souffrir, ça?
certainement pas, certainement pas. Je pense que c'est grave pour notre pays, c'est grave pour les artistes qui aujourd'hui voudraient peut-être s'engager et tout d'un coup ne le font pas parce qu'ils veulent pas subir ce sort. Et que voilà, c'est grave, c'est grave, c'est une situation qui est gravissime. Mais elle est encore plus grave puisque tout ça est accompagné de toute une vague de fact-checking, hein, c'est comme ça qu'on appelle, avec des fact-checkers qui font du blanchiment de fausses informations pour que les journaux qui sont sous l'influence des milliardaires qui ont financé la campagne de l'occupant d'Élysée actuelle, puissent justement faire circuler cette fausse information en étant couverts. Et alors, je me disais, je repensais l'autre jour à quelque chose de. Enfin, que j'ai envie de te dire là, c'est que, en fait, tu vois, quand tu mets de la viande de cheval dans la lasagne, il y a eu un annonceur comme ça qui a fait ça. D'ailleurs, c'est peut-être pas lui qui l'a fait, peut-être qu'il a été trompé par ses fournisseurs. En tout cas, on s'est aperçu que dans ces lasagnes, il y avait de la viande de cheval. Eh bien, cet annonceur a retiré les lasagnes qui contenaient de la viande de cheval. Hein, quand il s'est aperçu, quand on s'est aperçu, en tout cas quand il a été de notoriété publique qu'il y avait de la viande de cheval dans ses lasagnes, eh bien, ces annonceurs ont retiré et se sont excusés. Voilà, ils ont fait amende honorable. Et donc, ils ont retiré les lasagnes. Mais les fact-checkers, une fois qu'ils ont diffusé par leurs canaux de la presse mainstream leur fausse information, eh bien, cette information n'est pas retirée. Cette fausse information, elle n'est pas retirée. C'est-à-dire qu'il y a plus d'honnêteté finalement chez un margoulin qui met de sa propre volonté, de son propre chef ou pas, de la viande de cheval dans une lasagne. Hein, il y a plus d'honnêteté chez ce margoulin-là que chez les grands patrons de presse, hein, et AFP et compagnie, qui ont publié sciemment de la fausse information, et, ou pas d'ailleurs, peut-être pas sciemment. Allez, accordons-leur le bénéfice du doute. Nous sommes dans un pays de présomption d'innocence. Mais à partir du moment où il est avéré que l'information est fausse, si on est honnête et qu'on est un patron de presse honnête, on devrait retirer la fausse information, s'excuser, faire exactement la même chose que font les annonceurs qui ont mis... Ils ne le font pas. Donc je me dis, finalement, il y a plus... d'honnêteté chez Spanghero que chez Libération, par exemple, pour ne citer qu'un seul.
Pourquoi, d'après toi, il n'y a pas cette honnêteté chez Libération ou chez d'autres, hein, bien sûr?
Ben écoute, moi, je la constate. Hein, je la constate, puisqu'il y a encore des informations fausses qui circulent dans ce journal et d'autres qui ont été mémorisées par les colonnes de ce journal et qui n'ont toujours pas été retirées et aucune excuse n'a été faite. Surtout, par exemple, je peux parler déjà de celles qui ont été publiées me concernant, hein, les fausses informations et les calomnies, etc. etc. Donc, pourquoi je dirais sans doute parce qu'il y a une communauté d'intérêt entre, ou peut-être un lien. Ce sera déterminé par les procédures qui sont en cours et engagées sur ce plan-là, puisque aujourd'hui, il apparaît qu'il y aurait des liens, hein, je le mets au conditionnel, qu'il y aurait des liens entre ces grands groupes de presse et les producteurs de
ce que l'on sait.
De ce que l'on sait, de ces fausses informations qui sont diffusées comme étant la vérité. Donc voilà, aujourd'hui, je fais partie des quelques rares personnes à mon niveau de notoriété qui subissent ça. D'autres que moi l'ont subi aussi dans d'autres secteurs d'activité. Je pense à Martine Vonner, ou je pense à Christian Perron. On salue Martine Vonner, on salue Christian Perron, on salue Didier Raoult, on salue Idriss Aberkane, on salue toutes les personnes qui aujourd'hui ont eu le courage... qui luttent, qui votent, qui ont eu le courage aussi de soutenir dans l'indifférence générale parfois et contre vents et marées des vérités qui s'avèrent aujourd'hui, en tout cas l'être, parce qu'elles sont démontrées, mais qui à l'époque étaient taxées de complotisme, ce genre de conspirationnisme. Bon, bref, ils ont eu le courage de défendre et de la vérité, de combattre pour cette vérité. Aujourd'hui, cette vérité est en train de voir le jour. Alors, j'ai envie de citer Clément Rosset. Que Monsieur Enthoven me pardonne. Mais comme le l'écrit d'ailleurs de manière magnifique Clément Rosset, le réel finit toujours par prendre sa revanche. Eh bien, nous sommes dans cette période où
nous
le réel...
Nous prenons la revanche.
Voilà. Tu prends ta revanche. Le réel est en train de prendre sa revanche. Et j'ai envie de dire à tout le monde, à tous les gens qui n'ont pas pris le parti du réel, que nous les attendons dans les prétoires, à la place qui devra être la leur, c'est-à-dire le banc des accusés.
Parce qu'ils iront.
Oui.
J'en suis persuadé.
Oui.
Alors déjà, 1412 personnes en 9 minutes. 1400, merci à vous. Et continuez à partager, mettez des pouces. Vraiment, je veux que cette émission explose l'audimat, hein, il le faut. Donc toi, tu as écrit, voilà, « Lettre en vers à l'occupant de l'Élysée, à la représentation nationale et au peuple français ». Écrit en vers. Pourquoi en vers?
Alors, je le dis dans mon introduction. Pourquoi écrire en vers à l'occupant d'Élysée? Je réponds tout d'abord pour l'instruire. Pour l'instruire. Voilà une personne qui se répand un peu partout dans le monde et en public en disant que l'art français n'existe pas. Il connaît pas l'art français, donc il ne sait pas que l'art français existe. Or, moi, je maintiens que l'art français existe toujours, bien sûr, comme l'art, de manière générale, existe. Et que l'art français, de tout temps, et aujourd'hui encore plus que jamais, je le démontre avec mon livre, a un pouvoir de résistance à l'oppression qui demeure toujours suffisamment vigoureux pour qu'on veuille l'interdire. Tu vois, c'est le cas de mon livre qu'on veut interdire. Donc, en fait, oui, il est très important aujourd'hui d'affirmer les liens qui existent et qui ont existé de tout temps entre l'art et la politique. Parce qu'aujourd'hui, on confond, hélas, trop souvent la politique et la politique politicienne, c'est-à-dire la politique au sens noble du terme, qui est souvent d'ailleurs pratiquée par des citoyens indépendants comme toi ou comme moi, Et on confond cette politique noble qui consiste à prendre à son compte les affaires de la cité et à agir pour que la cité soit respectée par ceux qui en ont la gouverne. Eh bien, on mélange cette posture avec la posture politicienne, qui est la posture partisane, qui consiste avant tout non pas à servir sa patrie par l'engagement politique, mais à servir son parti par l'engagement politique. Et ça, c'est pas du tout la même attitude, c'est pas la même posture, et c'est celle qui a corrompu la République. C'est-à-dire que, comme le disait Duchamp, il y a un moment où le politicien, le souci du politicien n'est pas de régler les problèmes de ses administrés, mais de se faire élire. Et donc, il va bien entendu ménager la structure qui lui a donné l'investiture, il va ménager la chèvre, le chou, essayer de voilà. Il ne pense plus finalement à servir ses administrés, ses électrices, ses électeurs et ceux qui n'ont pas voté pour lui mais qui demeurent ses administrés. Il pense à finalement servir les intérêts de son parti et voilà. Il va louvoyer dans ce contexte qui n'est plus un contexte vertueux. Mais c'est pas parce que ce contexte cesse à un moment donné d'être vertueux que pour autant le fait d'agir en politique ne l'est pas. Il est vertueux d'agir en politique. Il est vertueux pour un citoyen de s'engager pour se mêler des affaires de la cité, pour régler les affaires de la cité. Et je pense pas qu'on puisse vraiment régler de manière pérenne les affaires de la cité si à un moment donné, on n'arrive pas à prendre les rênes de la gouverne, justement, du pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai milité pendant tant d'années. Je suis même allé au charbon. Je suis même allé en première ligne défendre sur des listes ou en engageant, en briguant des mandats, le principe de la candidature citoyenne que j'ai opposé à la candidature partisane, à la candidature politicienne. Bien sûr, c'était des actes désespérés, puisque maintenant, il est de tradition pour le peuple français, pour les Françaises et les Français, de voter non pas pour des personnes, mais pour des partis. C'est comme ça. On a mis ça dans la tête des gens. On a mis dans la tête des gens que s'ils ne votent pas pour un parti, ils ont mal voté. Et donc, de père en fils, le communiste va voter communiste parce que son père était communiste, ou alors il va voter à droite parce que son père était communiste, il s'entendait pas avec son père. C'est le paradoxe, c'est que le vote est finalement une action affective. Elle est profondément touchée par l'affect, par l'émotion, mais en même temps, la part de la raison qui s'empare de l'électeur au moment où il vote, ou de l'électrice, c'est de se dire « attention, 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 alors lui, tu connais pas, il fait pas partie d'un parti, donc il est pas dans le jeu, donc on vote pas pour lui, on s'intéresse même pas à son programme. » Mais en revanche, celui-là, oui, il est de tel parti qui existe depuis toujours, celui-ci est un tel parti qui existe depuis toujours, bon, oui, ce parti-là ne me plaît pas, je vais voter pour celui-là. Mais en fait, qui est la personne? Voilà, on s'en moque un petit peu. Il n'y a que aux élections finalement présidentielles où on s'intéresse un peu à la personne. Voilà.
Mais est-ce que les artistes doivent plus s'engager? Toi, tu es un artiste du peuple, tu es la voix du peuple. Est-ce que justement les artistes doivent être plus la voix du peuple? Parce que là, les artistes, mine de rien, on ne les entend pas beaucoup, on ne les voit pas beaucoup. Pourquoi il n'y a plus de Francis Lalanne comme il y avait à l'époque de Coluche, de Balavoine, de Lino Ventura, de Jean Gabin? Où sont ces gens-là?
Alors, il y a deux questions dans ta question. La première question, c'est est-ce qu'un artiste doit s'engager? En ce qui me concerne, c'est mon opinion, je considère que oui, et toute ma vie a été articulée sur ce principe. C'est-à-dire que je ne peux pas me contenter de dire Faucon ou Yaka et ne pas faire ce que je dis, ni agir dans le sens de ce que je dis. Donc, j'ai toujours, ce que j'écris a toujours été en harmonie avec ma façon d'agir, et j'ai toujours agi dans le sens de ce que j'écrivais. Ça, c'est pour répondre à ta première question. Donc, je ne pense pas que l'artiste soit uniquement là pour divertir au sens pascalien du terme, hein, c'est-à-dire pour éloigner les gens de leurs soucis et pour les faire rêver, les émerveiller. Certes, il est là pour ça, mais pas que pour ça. Il est là aussi pour éveiller les consciences, et il doit le faire non seulement par ce qu'il écrit, par ce qu'il crée, par ce qu'il peint, par ce qu'il chante, par ce qu'il interprète, mais il doit le faire également en s'engageant dans la vie politique à la place qui est la sienne, c'est-à-dire celle du citoyen. Parce qu'on est aussi citoyen quand on est artiste et pas simplement quand on est plombier, boucher, ingénieur, médecin, etc. Ça, c'est pour répondre à ta première question. Maintenant, la seconde. La seconde, c'est où sont, non pas les femmes, comme disait notre ami, mais où sont les artistes en ce moment? Eh bien, moi, je vois, par exemple, je suis allé voir au théâtre Mademoiselle Annie Dupéré, qui a toujours été ma reine. Hein, ça a été ma reine depuis qu'au théâtre de la ville, où elle jouait Hermia à 20h du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, moi, je passais à 18h30, elle était venue me voir, j'étais un jeune chanteur, tout jeune chanteur un cui d'âme qui démarrait dans la chanson, et elle avait placardé une note sur le mur en disant « Avis à tous mes sujets, ceux qui n'iront pas voir Francis Lalanne à 18h30 sur la scène seront bannis de mon royaume, signé votre reine Hermia. » Et bon, elle a toujours été ma reine, j'ai toujours eu pour cette femme une admiration extraordinaire en tant qu'artiste, en tant que personne, comme par hasard. C'est elle qu'on retrouve ici pour défendre une grande dame, pour défendre les soignantes et les soignants, car comme elle le rappelle très justement, la France est le seul pays du monde où les soignantes et les soignants ne sont pas réintégrés. C'est une aberration que le pays des droits de l'homme soit le seul pays aujourd'hui qui vienne à ce point porter atteinte aux droits de l'homme. Je ne comprends pas que les Françaises et les Français ne soient pas ulcérés au point de descendre dans la rue. Mais franchement, on est descendu dans la rue pour 1,40 de gasoil, et là, on est en train d'empêcher, comme d'ailleurs le dit très bien Annie Dupéré, les soignantes et les soignants de reprendre leur travail, alors qu'on a une pénurie de soignants, une pénurie de soignantes, que les hôpitaux ne peuvent plus recevoir tout le monde, ne peuvent plus soigner tout le monde. Pareil pour les pompiers. Est-ce que tu sais que, donc, on a suspendu des pompiers au motif que, donc, ils refusaient l'injection létale, et que on a été obligé d'aller chercher des pompiers à l'étranger, dans des pays limitrophes de la France, où on n'oblige pas justement les pompiers à recevoir cette injection. Et donc, voilà le paradoxe. On va chercher des pompiers qui n'ont pas reçu l'injection pour remplacer des pompiers français qui refusent l'injection, d'accord ? Et on va les payer pour ça. Donc l'aberration, c'est que de toute façon, il y aura aux côtés des pompiers qui ont accepté l'injection, des pompiers qui, eux, l'ont refusé, sauf qu'ils viennent d'un pays étranger et qu'on va les payer pour ça alors qu'on manque de pompiers. Cette situation que pour répondre à ta question, que Annie Dupéré a dénoncée, bon, j'ai pas entendu beaucoup de gens la dénoncer dans le monde artistique. Et crois bien que ça m'afflige que mes collègues, que mes confrères, que mes consoeurs se tairent ainsi, ne prennent pas la parole, parce que je considère que c'est leur rôle. Maintenant, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question, parce que c'est ma corporation, et que je suis corporatiste. J'ai envie de défendre ma corporation, j'ai pas envie de l'accabler. Mais là, j'ai presque envie de dire que je ne souhaite plus faire partie de cette corporation, pour pouvoir justement dire ce que j'ai à dire sur elle. Et je suis obligé de lui exprimer ma tristesse, de la voir ainsi se coucher devant des décisions qui portent autant atteinte aux droits de l'homme sans réagir, et parfois même d'encourager ces décisions par des prises de position qui sont regrettables. Je le regrette en
effet. Merci beaucoup pour ce message aux soignants suspendus, aux pompiers, au personnel administratif, à tous ceux qui ont perdu leur travail, enfin, qui sont sur ce statut bâtard. Nous les soutenons, nous sommes avec eux. Alors déjà, plus de 2200 personnes en même temps. Merci et continuez.
Puis-je rajouter un mot ? En plus, je considère que non seulement ils devraient être réintégrés, mais ils devraient être dédommagés. Pour des raisons que nous ne développerons pas ici, et que tu connais, que tout le monde connaît, qui sont dues à ce que nous savons aujourd'hui de ce qu'on a exigé d'eux et voilà. Et donc, je pense qu'ils doivent être dédommagés pour ce qu'ils ont subi indûment, en plus d'être réintégrés. Et je serai, juste un mot pour le dire à ceux et celles qui nous écoutent, le 10 décembre, il y aura à Aix-en-Provence une manifestation, justement.
Bah, très bien. Manifestation de soutien.
De soutien aux soignantes et aux soignants, et aussi de soutien aux personnes qui n'ont pas très bien supporté l'injection. Donc, voilà, pour parler par euphémisme.
Très bien.
Pour ménager ta chaîne. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, je vais lire un peu ton livre, quelques extraits.
S'il te plaît.
Par exemple, sur l'introduction.
Est-ce qu'on pourrait te voir quand tu lis ?
Non, d'accord. Pas besoin de me voir. C'est pas important qu'on me voit. Moi, je ne suis pas important là.
Bon, on me verra dans tes yeux.
Voilà.
Non, on te verra dans mes yeux, pardon.
Voilà. Alors, tu écris, je m'adresse donc dans ce livre, à l'occupant de l'Élysée, qui prétend régner sur la France en monarque absolu, 2, à la représentation nationale qui jusqu'ici l'a laissé faire. Je fais le vœu qu'elle renoue avec sa mission première, qui est de représenter le peuple, non pas les partis, et d'empêcher par son mandat de contrôle et son devoir de vigilance la concentration et l'abus des pouvoirs. 3, au peuple français que j'attends dans l'action. Donc, première question. Pour toi, l'occupant de l'Élysée, tu fais référence, j'imagine, à la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est une occupation, le fait qu'il soit aujourd'hui à l'Élysée?
Je considère que c'est une occupation dans la mesure où je considère qu'il a été porté aux responsabilités par la fraude électorale et non par la volonté des Français. D'ailleurs, avec Carlo Broussa, Maud Marian, Morad El Attab, nous sommes un certain nombre d'intellectuels, d'avocats, d'hommes de loi, d'hommes de lettres. J'ai envie de dire d'hommes de lettres, L apostrophe E accent circonflexe TRE, à nous être portés partie civile dans cette affaire. Et nous avons présenté donc un premier recours qui vite, 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 vite a été éludé par notre ami le président du Conseil constitutionnel, dont le fils est le patron de l'actuel occupant de l'Élysée, n'est-ce pas? Puisqu'il y a un conflit d'intérêts, alors ça, c'est pas grave, mais bon, si. Pour Monsieur Fillon, c'était très grave que, comme toutes les femmes de députés, la sienne ait un petit boulot dans la maison. Bon, bref, les conflits d'intérêts, ça n'est grave que pour les autres quand on est au pouvoir, n'est-ce pas? Voilà. Bien. Alors, nous sommes un certain nombre à avoir porté cela devant la Cour européenne de justice, hein, et nous attendons de passer au rôle. Et bien évidemment, nous considérons que nous avons toutes les preuves qui attestent de ce que, oui, ce qui porte un nom, hein, qui s'appelle de la fraude électorale et qui est extrêmement répandue dans le monde actuellement. Hein. On le voit un petit peu partout.
Et quand tu parles de au peuple français que j'attends dans l'action, ça veut dire que, parce que moi je fais les manifs aussi, je vois des gens, beaucoup ont perdu espoir. Et toi, tu as encore espoir dans le peuple français. Tu sens que le peuple français a encore sa flamme qui est allumée. Elle n'est pas totalement éteinte.
Ah ben, je peux même te le lire en vers si tu veux, je l'ai écrit dans le livre,
Oui.
dans ce poème qui s'appelle Ode à la France, où
Vas-y.
je lui fais part de mon doute et il faut juste que tu me tendes mon livre, parce que je ne sais pas encore par cœur, mais je vais
Vas-y.
répondre en vers à ce que tu dis. Oui, je crois dans le peuple français. Bon, c'est peut-être une faiblesse de ma part, peut-être que c'est de la naïveté, mais je ne crois pas que ce soit de la naïveté. Je pense que c'est de la foi, tout simplement. Voilà. Alors, attends, il faut que je repère parce que je ne vais pas tout te lire, mais le passage qui répond à ta question, voilà. Du haut de mon gibet social et politique, hein, puisque je suis en quarantaine, hein, mis en quarantaine du monde médiatique, du haut de mon gibet social et politique, je garde vive en moi la fibre poétique. Et même si je suis celui qu'on met à bas, n'importe, je me bats. Je me bats, je me bats. Du haut de mon gibet, avec mes compagnons, je vois la France en proie à tant de désunion, mais je crois au renfort qui se doit d'arriver. Je crois que les Français vont bientôt se lever. Le peuple, en héritier de ses lointains parents, va relever la tête. Il va serrer les rangs. Et parce qu'elle place en lui sa délivrance, du haut de mon gibet, je regarde la France. Il m'arrive parfois, je l'avoue, de penser que la France n'existe que dans le passé, et que le peuple dont je parle, dont je rêve, n'est plus celui qui marche, mais celui qui crève. Du haut de mon gibet, je pense à tout cela, mais je sais que la France sera toujours là. Je pense qu'elle attend, je pense qu'elle veille, et que ce qui dormait, désormais, se réveille. J'y crois vraiment. Je le dis encore ici, puisque dans une ode, tu sais, on reprend certains passages en les modifiant un petit peu comme une sorte de refrain. Tu vois? Voilà. Du fond de ma prison sociale et médiatique, je garde vive en moi ta fibre romantique. Je parle de celle de la France. Et même si je suis exclu de tout débat, c'est là le refrain de l'ode un peu modifié. Qu'importe. En Cyrano, je me bats. Je me bats. Du fond de ma prison, avec mes camarades, je pardonne à tous ceux qui m'ont laissé en rade. Et je souffre avec eux, mais en gardant l'espoir que bientôt verront clair ceux qui sont dans le noir. Je crois que c'est un passage à vide. Je crois que les Françaises et les Français sont en état de choc. Ils sont en train de réaliser qu'on leur a menti. C'est très dur de réaliser qu'on a été trompé. Parce que parfois même ceux qui ont eu la responsabilité de parents dans cette affaire et qui les ont peut-être amenés à penser comme le pouvoir nous a contraints à penser, en tout cas une partie d'entre nous, eh bien, ils se disent aujourd'hui on nous a trompés, les choix que j'ai faits sont peut-être pas des bons choix pour ma santé, les choix que j'ai faits sont peut-être pas bons pour la santé de mes proches, de ma progéniture, de mes parents, etc., etc. Et il y a ce choc de la personne trompée qui réalise qu'elle a été trompée. Et comme disait mon ami Coluche, et surtout en France, la sueur, ça dure qu'un temps. Et je pense que dans ce passage à vide, je pense que les Françaises et les Français vont trouver la force et l'énergie de dire non à tout ce qui se prépare maintenant et qui va dépasser les bornes qui d'ailleurs ont déjà été dépassées depuis longtemps.
C'est-à-dire que tu as des Français qui viennent te voir et qui te disent « nous allons agir, nous refusons cet état de fait ».
Oui.
Ils sont nombreux ?
Oui. Oui.
Et c'est ce qui te donne du coup l'espoir ?
Non. Ce qui me donne l'espoir, c'est ma foi. Tu sais, souvent les gens confondent la foi avec la certitude. Moi, je suis chrétien, tu le sais, très profondément chrétien. J'ai la foi. J'ai la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie, je vais à l'église, je communie, j'exprime ma foi avec ceux qui ont la même foi que moi. Je l'exprime aussi avec mes frères musulmans qui sont des croyants comme moi. C'est ce qu'on a en commun et je me sens beaucoup plus proche d'un musulman croyant que d'un athée néolibéral. Pareil pour mes frères et pour mes sœurs de confession juive. À partir du moment où ils sont croyants, je me sens plus d'affinité forcément avec eux qui croient comme moi et qui respectent leur tradition comme moi qu'avec un néolibéral athée qui ne pense qu'à consommer et avoir la plus belle bagnole, la plus belle montre, le plus beau portable, etc. etc. Je pense qu'il y a d'ailleurs à ce sujet quelque chose à faire justement pour la réunion de tous les croyants sous un même bord, sous une sorte de même... éthique, d'un même fanion, d'un même drapeau. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui face à la dérive consumériste du capitalisme, c'est justement la foi qu'on peut avoir en soi-même, en sa patrie, en l'identité de sa patrie aussi, en sa nation, en sa religion, etc. Et j'ai cette foi qui m'anime. Mais j'ai aussi cette foi, elle s'étend. C'est pas simplement une foi tournée vers quelque chose de transcendantal. C'est aussi une foi tournée vers mes sœurs et mes frères humains. C'est la foi que j'ai en l'humanité de manière générale, et en particulier la foi que j'ai pour la France, en la France.
Mais tu sais, la foi dont tu parles. Il y a 10-15 ans, les gens n'en parlaient pas parce que les gens avaient peut-être honte ou peut-être du fait qu'aujourd'hui la religion de laïcité fait que bon. Mais aujourd'hui, je remarque depuis ces 2-3 dernières années, depuis donc la crise sanitaire, les gens l'expriment de plus en plus. Tu as senti ce changement ?
Oui. Paradoxalement, j'en parlais avec un ami et frère musulman et une sœur musulmane l'autre jour. Et je disais, Dieu est le plus grand. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent quand ils prient dans leur langue. Et Dieu est le plus grand. Et parfois, il s'adresse à nous là où on ne l'attend pas. Et en fait, je crois que c'est dans ces moments-là qu'on sent encore plus sa présence au cœur du monde. Il y a cette phrase incroyable de Saint Jean qui dit... Dieu, je ne te prie pas pour le monde, mais pour qu'étant dans le monde, il n'ait pas l'esprit du monde. L'esprit du monde étant l'anagramme du mot monde d'ailleurs, c'est-à-dire le mot démon. Et en fait, je me dis, moi, souvent, que je suis en train de mener un combat profane, en fait, pas du tout religieux, hein, mais que quelque part, à travers ce combat profane, en fait, je défends les valeurs chrétiennes. Ce sont vraiment les valeurs chrétiennes qu'on défend. La fraternité, avant tout, l'amour du prochain. Et même l'amour de ses adversaires, de ses ennemis. Moi, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et je leur pardonne encore chaque jour.
Comment on fait pour pardonner ?
On se délivre d'un poids terrible, qui est celui de la rancune, de la haine. Il n'y a rien qui te rend le plus malade au monde, même si ça t'anime. Ça te donne la pêche, hein, mais comme toutes les drogues. Après, la descente est terrible. L'amour est quelque chose de pérenne, qui t'épanouit, qui te libère de toute tension. Et pardonner, c'est un don du ciel, c'est la vertu la plus extraordinaire pour la santé de l'âme et du corps. Tu sais, c'est Voltaire qui disait, moi j'ai choisi le bonheur parce que c'est meilleur pour la santé. Moi j'ai choisi de pardonner parce que c'est meilleur pour la santé. Et en fait, je me dis finalement, je suis dans un combat profane où se rétablissent les valeurs chrétiennes. Et c'est vrai que moi, dans ma sphère combattante autour de moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes dont j'ignorais qu'elles avaient la foi, la même foi que moi, et qui se retrouvent dans le même combat, sur la même ligne que moi, à défendre les mêmes choses que moi. Et je me dis, le Seigneur est vraiment incroyable, quoi. Voilà, il est là, même quand on pense qu'il est loin.
Il est toujours là, il est dans ton cœur, il est toujours présent.
Grâce à Dieu. J'ai ça dans ma vie, grâce à Dieu. Et c'est ça qui m'a aidé à traverser les pires périodes de ma vie. Et c'est ça qui me fait regarder l'avenir avec un sourire, un grand sourire.
Parce que tu savais qu'en fait, malgré les épreuves, tu n'étais pas seul.
Oui.
Et c'est ce qui t'a permis de continuer malgré les colibets, malgré ce que les pouvoirs publics peuvent faire ou dire. Tu n'étais pas seul.
Ce que je disais à mon ami Jean-Marie Bigard, dont je ne comprenais pas les choix, je lui ai dit, tu es chrétien, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Le Seigneur nous a dit de ne pas avoir peur. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la mort, quelle qu'elle soit, que ce soit une mort professionnelle, une mort physique, une mort, quelle qu'elle soit. Parce que j'ai la foi, j'ai cette foi qui m'anime. Tu sais, je regarde la vie et je regarde la mort de la même manière. Est-ce que tu as vu cette photo en noir et blanc extraordinaire de Fortino Samano, lieutenant de Zapata?
Non.
Alors, vous la trouverez sur la toile, hein, Fortino Samano, lieutenant de Zapata. On a un grand et magnifique Mexicain, très beau, comme ça, un peu nonchalant, la main dans la poche, en train de fumer un bon cigare, avec un sombrero magnifique, un sourire comme ça au coin des lèvres et une espèce de buée heureuse dans les yeux et qui regarde loin devant lui. Et on se dit, cet homme est devant un paysage extraordinaire, magnifique, merveilleux, d'une beauté incroyable. Et en fait, il est devant son peloton d'exécution. Et il est en train de regarder la mort en face. Eh bien, moi, dans ma vie, j'ai pris pour exemple cette image. Et chaque jour que Dieu fait, où j'ai la chance de pouvoir jouir du bonheur d'être en vie, je regarde loin devant moi cette mort qui viendra avec un beau sourire, en lui disant, tu peux venir quand tu veux, plus on est de fous et plus on rit.
Et puis parce qu'après cette mort, il y a une nouvelle vie.
Parce qu'il n'y a même pas après la mort. Il y a juste la vie. Voilà.
Toujours la vie.
Toujours la vie. La mort en fait partie d'ailleurs.
Alors, je vais lire encore un passage. Parce que j'ai aimé ce livre.
Je t'en prie.
Je vais lire donc certains passages. Un passage de septembre 1992, une balade que tu as écrite. Et j'ai l'impression qu'en 92, il y a 30 ans, nous sommes enfin, je veux dire que c'est tellement d'actualité.
Nous en sommes là, quoi.
Voilà. Avant que nous soyons 3 millions de chômeurs, à n'avoir d'autre espoir que de vivre RMiste, avant que le pouvoir n'étouffe nos clameurs en traitant nos idées d'idéaux extrémistes, avant que nos slogans soient notre dernière halle, ensemble proclamons la grève générale. Mais c'est tellement d'actualité.
Oui, et c'est tellement d'actualité qu'en face de ce poème que j'ai retrouvé, que j'avais publié d'ailleurs à l'époque dans un journal qui s'appelle Information ouvrière, parce que j'ai publié des poèmes, personne ne le sait, dans la sphère bobocrate actuelle et bien pensante qui a le pouvoir, mais on efface pas mal de mémoires qui dérangent. Mais par exemple, moi j'ai publié dans Libération, ce fameux journal qui a bien changé, j'ai publié dans L'Humanité, j'ai publié dans le quotidien, dans le journal du dimanche, j'ai publié dans François, à l'époque où François était un journal de papier, j'ai publié à peu près dans tous les journaux des poèmes qui étaient des pamphlets en vers, comme celui que tu as lu là, comme ceux que j'ai écrits dans ce livre. Et j'en avais écrit au moment du scandale du sang contaminé, où on retrouvait encore notre irresponsable
Monsieur
Fabius au plus haut niveau, hein. On confie toujours dans ce pays depuis quelques années, hélas, les plus hautes responsabilités aux plus grands irresponsables. Il y avait aussi un poème que j'avais écrit sur le non à Maastricht, au traité de Maastricht. Voilà. Il y avait plein de poèmes comme ça que j'avais écrit, de pamphlets. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui qu'en fait, j'aurais pu les écrire hier, ces poèmes-là, et qui sont d'une actualité brûlante. Et alors ça ne me réjouit pas du tout. Tu vois, j'ai l'impression, quand je relis ça, quand je me dis ça fait 30 ans que j'écrivais ça, rien n'a changé, j'ai l'impression d'avoir un peu échoué, tu vois, parce que on rêve toujours, quand on écrit, d'agir sur la conscience humaine au point qu'elle se modifie un tout petit peu et que les actes des êtres humains s'en ressentent. Mais là, en fait, ce qui est terrible, c'est que j'ai l'impression que d'être un peu la voix qui crie dans le désert, pour reprendre une image tirée de l'Évangile, cette voix de Jean-Baptiste qui crie dans le désert, préparer les chemins du Seigneur, ben, je crois qu'il faut qu'on reprenne un peu le balai, le râteau, le manche et la pioche, et il faut absolument qu'on aplanisse cette route pour nos enfants, quoi, pour que nos enfants ne mettent pas le pied dans toutes les ornières qu'on a mis sur leur chemin, par nos agissements inconsidérés, par notre difficulté aujourd'hui à nous unir pour que le monde soit meilleur. Ouais.
Et justement, en 92, quand tu as écrit ces vers, est-ce que tu t'es projeté 30 ans ou 40 ans après, si tu dis,
À cette époque-là, j'ai écrit ça dans le cadre et à la suite de mon engagement dans la révolte des intermittents du spectacle, d'ailleurs qui s'est soldé par une victoire, puisqu'on a gagné à ce moment-là 15 ans de droit. On a reconduit nos droits au moins pendant 15 ans après qu'on essaye encore de nous les ôter. Bref. Et donc, je me rappelle que à ce moment-là, la CGT, une fois de plus, avait hélas brisé la grève. On voulait aller plus loin. Mais bon, la CGT a dit on arrête. Et donc, bref. Moi, j'étais représentant des non-syndiqués occupant l'Odéon. J'avais été un de ceux qui avaient déclenché la grève au Festival d'Avignon. Qui avait été à l'origine de tous les théâtres qui avaient fermé à Paris, qui n'avaient pas levé le rideau par solidarité avec les intermittents du spectacle, tout le personnel, les techniciens du spectacle, etc. Bref, j'étais un de ceux-là, un de ceux qui avaient mené cette révolte. Et il y avait donc les représentants des syndicats qui étaient là, avec qui j'étais en discussion permanente, et bien évidemment, on n'était pas d'accord. Parce que moi, je recherchais un objectif, et les syndicats, eux, recherchaient à contrôler la contestation, qui n'est pas du tout le même objectif. C'est pour ça que je pense qu'il est important que se constitue un nouveau syndicat, qui ne soit pas un syndicat politisé, mais un syndicat citoyen. Enfin, il faudrait que quelqu'un le fasse. Il y a des gilets jaunes qui ont commencé à le faire, il faut qu'ils continuent. Il faut mettre les adhésions à 1 euro, il faut arriver à avoir 700, 800 000 adhérents pour être le premier syndicat de France et pouvoir aller à la table des négociations et voir ce qui s'y trame. Bref. Et donc, j'étais un petit peu en état de choc et contrarié par tout ça. Et donc, j'ai organisé, avec les intermittents du spectacle, la première manifestation interprofessionnelle depuis 1968. Il y avait les ambulanciers, les délocalisés, les agriculteurs, les intermittents du spectacle et les ambulanciers. Et on avait organisé cette manifestation qui était la première interprofessionnelle depuis 68. Et à l'époque, j'étais très ami avec un vieux trotskar qui a été un petit peu un de mes maîtres au niveau de ce qu'on peut apprendre sur la lutte citoyenne, le combat citoyen, qui était Pierre Lambert. Alors ça va en effrayer beaucoup.
Oui, on parlait des lambertistes.
Voilà, j'étais pas lambertiste, mais j'étais un copain de Pierrot que j'aimais beaucoup et qui m'a beaucoup appris justement sur la façon de conduire une lutte citoyenne dans la rue. Et voilà. Et donc j'avais publié mon appel à la grève générale, puisque j'espérais qu'il y ait d'autres corporations qui se joignent à nous. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, que j'avais écrit cet appel à la grève générale. Voilà. Et puis je me rappellerai toujours ce que m'a dit Pierrot Lambert à cette époque. Sur le moment, j'ai pas vraiment réagi. Il m'appelait tête de l'art parce que je voulais jamais rien entendre. J'en faisais toujours qu'à ma tête. Et donc, on avait pris l'Académie française, on s'était installé dans l'Académie française avec les intermittents du spectacle, on avait fermé les portes, on s'était fait évacuer par la police, etc., etc. Et puis, Pierrot avait vu ce qui s'était dit dans la presse, moi, en première page du France Soir, embarqué par la police dans un camion, et puis ce qui avait été dit, Francis Lalanne, et les commandos de Francis Lalanne, comme si j'étais un terroriste, tu vois, ça commençait déjà. Pierrot m'a dit, Francis, tu vas dégager de cette lutte. J'ai dit, mais comment tu me parles, Pierrot? Personne ne me dégage d'aucune lutte. Tu ne suis ni toi, ni personne. Il me dit, écoute-moi, tête de lard. Tu as fait déjà bien plus que n'importe quel artiste pourrait faire pour nous. Maintenant, il y a une chose beaucoup plus importante que tu fais pour nous, c'est d'écrire des belles chansons et d'être là quand on a besoin de toi. Parce que là, si tu continues comme ça, ils vont t'effacer. Ils vont t'effacer. Puis personne ne saura qui tu es. Ils feront en sorte que tu sois complètement effacé. Donc là, il est encore temps pour toi, je te le dis. Sors de cette lutte. Tu as donné le maximum, tu as fait le maximum. Mais nous, on a besoin de gars comme toi. Et si des gars comme toi disparaissent, on n'en aura plus. Alors fais-moi confiance. Fais confiance à l'ancien. Repose-toi. Ça faisait 3 mois que j'étais occupant de l'Odéon. On avait d'abord occupé l'Odéon, ensuite le théâtre Trévise. Et Pierrot m'a dit ça. Et voilà, j'étais sonné. J'avais pris un uppercut. J'étais chaos dans les cordes. Comment lui pouvait me dire de quitter une lutte? C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. La seule fois de ma vie que... j'avais fait quand même 3 mois avec des intermittents. La CGT avait brisé la grève. On n'était plus dans le combat qu'on avait mené pendant tout le mois de juillet, le mois d'août, etc. Mais on était encore dans une phase revendicative avec un besoin de faire en sorte que ce combat aille au-delà du simple et du seul problème des intermittents. Et je suis retourné à mes concerts, à mes spectacles, et franchement, ça a été dur pendant 2 ans. Tu vois, j'étais pas censuré comme je suis aujourd'hui, mais c'était plus difficile. Il y avait des émissions que je pouvais plus faire. Il y avait un début de ce qu'avait dit Pierrot. Et je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, écoute, j'ai appris avec mes parents à respecter les anciens. T'es un vieux combattant, t'es un vieux grognard. Je vais faire ce que tu dis. Et aujourd'hui, je repense beaucoup à Pierre. Je repense beaucoup à Pierre. Parce qu'en fait, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est ce qu'il m'avait annoncé à ce moment-là. Et il n'était pas là pour me dire de sortir de la lutte avant. Alors, j'y suis resté.
Ça veut dire que tu es resté toujours cette tête de l'art.
Oui.
30 ans.
Tête de l'art, oui.
Là-dessus, t'es le même, quoi. T'as, je veux dire, tout ce monde, même du showbiz, tout ça, ne t'a pas changé.
Non.
Et te changera jamais.
Parce jamais.
Là, c'est fini.
C'est trop tard. Peut-être d'ailleurs que je n'en fais plus partie, d'ailleurs.
Alors, tu es aussi dorénavant, et là tu l'écris dans ce magnifique livre, un militant de la paix. Et je vais lire donc un extrait. Inkoda. Ne livrez plus, monsieur, des armes en Ukraine. Ne livrez plus, monsieur, des armes à la haine. On ne fait pas le mal, comme vous, sans remords. On ne fait pas la paix en provoquant la mort. On ne fait pas la paix comme on faisait naguère, en nourrissant le feu de l'un des deux parties. En soufflant sur la braise, sur son appétit, on ne fait pas la paix en attisant la guerre. Est-ce que M. Macron fait de nous de futurs co-belligérants?
Alors, je vais te répondre sans embâge. Je considère, moi, que eu égard à ce qui se passe, là, depuis 9 mois, je pense que la France, malgré elle, et parce qu'elle y est, parce qu'elle elle est engagée par le gouvernement, a déclaré la guerre à la Russie. D'ailleurs, je vais te le dire en vers. C'est un sonnet, hein, c'est en 14 vers. Tu m'accordes
ce temps? Oui, évidemment. L'antenne est à toi.
Donc le sonnet, c'est un sonnet élisabétain. Donc, hein,
tu seras devant les plus de 2650 personnes, voilà, qui te regardent.
Et ça s'appelle « Avis à la population ».« Avis à la population ». En envoyant des armes en Ukraine, et pire, des soldats en plus de l'armement, pour que les combattants ukrainiens en comprennent pendant qu'ils sont en guerre le fonctionnement, en le faisant sans aviser le Parlement, alors que la présence française est pérenne en Ukraine, et que nos forces, en ce moment, en plus de former les Ukrainiens, les entraînent. En prenant le parti, pendant l'affrontement, d'un pays contre l'autre, et plongeant dans l'arène, en finançant l'Ukraine, tout en réprimant la Russie de façon publique et souterraine, Il faut qu'on se le dise. Au vu de tout ceci, la France a déclaré la guerre à la Russie. Mais c'est ça que les gens ne réalisent pas. C'est que il y a une personne à l'heure actuelle qui se prétend indûment le président, parce que non seulement il n'a pas été élu, mais porté au pouvoir par la fraude, mais en plus de ça, il ne représente pas les valeurs de notre pays. Il les bafoue tous les jours dans la manière dont il parle de la France, dans la manière dont il conduit les affaires de la France, où il viole la Constitution tous les jours. Il viole le code pénal, il viole le code civil, le code de la santé publique, le code de la sécurité intérieure. Il viole la loi tous les jours, il viole la Constitution, ce qui est interdit par la Constitution, et ce qui justifie, on en parlera après, la saisine de la Haute Cour de justice. Mais là, il entraîne la France dans une guerre malgré elle, alors que la majorité des Françaises et des Françaises sont contre la guerre, et il le fait en violation des droits du Parlement, puisque tu le sais, c'est l'article 35, on ne peut pas engager des opérations militaires ou paramilitaires en France, c'est-à-dire on ne peut pas engager la France dans des opérations militaires ou paramilitaires à l'étranger, au-delà d'une période de 3 ou de 4 mois, sans en aviser le Parlement et sans demander l'aval du Parlement. Donc là, ça fait 9 mois que ce monsieur vend des armes, envoie des officiers français pour former les soldats ukrainiens et leur apprendre à s'en servir, voire même, on n'en a pas encore vraiment la preuve, mais on en est pratiquement certain, en opération avec eux sur le terrain. Moi, j'ai posé des questions à ce sujet où on ne m'a jamais répondu. Franchement, c'est extrêmement grave.
Qui a posé des questions ?
Au ministre des Armées. D'accord. Et au chef de l'état-major de l'armée française. Okay ? Par accusé AR, hein. Je n'ai jamais eu de réponse, hein, sur la présence éventuelle d'officiers français à Mariupol.
Hein. Alors, voilà. Attention pour le micro. Ah,
voilà. Attention. Voilà. Et donc, en plus de ça, donc, il est question maintenant de venir former les soldats ukrainiens sur notre territoire, au fonctionnement des armes qu'on leur vend. Parce que moi, je suis contre la vente des armes. Hein. Quand on est un pays qui défend la paix, on ne vend pas des armes. Maintenant, aujourd'hui, la France me dirait « Vous êtes gentil, monsieur Lalanne, mais c'est du business, on a besoin d'argent, on vend des armes, c'est comme ça, c'est une technologie qui est sur le marché, si ce n'est pas nous, ce sera d'autres personnes qui les vendront, etc. » Donc, on vend des armes. Alors, on va vendre des armes en Ukraine, si l'Ukraine veut nous en acheter, on va vendre des armes aux Russes, on va vendre des armes à tout le monde. Là, on n'est pas co-belligérant, mais là, il s'agit donc de militer pour qu'on sanctionne un des deux belligérants, d'envoyer des millions et des centaines de millions, alors qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les pauvres dans notre pays et qu'il faut se serrer la ceinture pour que ces gens-là puissent tuer nos amis, parce que ce sont nos amis, les Russes. Je veux dire, moi, je suis extrêmement attaché à l'amitié franco-russe. C'est un des fondements du lien européen, cette amitié. Et c'est un fondement historique. On n'a pas le droit de le bafouer ainsi. Mais bon, donc aujourd'hui, ce monsieur appelle le monde entier à prendre des sanctions contre la Russie et se met donc du côté du gouvernement de Kiev. Il vend des armes ou il en donne, ou il envoie de l'argent exclusivement au gouvernement de Kiev contre la Russie, et il fait venir des soldats ukrainiens sur notre territoire pour les former, il en envoie là-bas pour en former d'autres, voire pour intervenir. En agissant ainsi, il agit en violation de l'article 35. Ce sont des opérations militaires ou paramilitaires qui engagent le peuple français, malgré lui, dans une guerre qu'il ne désire pas.
Parce que dans ta conclusion, ton sonnet, parce que tu dis que l'on va faire la guerre à la Russie, ça signifie que nous irons tout droit dans la Troisième Guerre mondiale.
Non, mais ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'on va faire la guerre à la Russie. Je dis qu'on a déclaré la guerre à la Russie.
La déclaration. Oui,
oui, moi, si je suis russe, j'estime qu'on m'a déclaré la guerre. Parce que si tu prends parti pour un pays contre l'autre et que tu agis financièrement, de manière active, en fournissant une aide, un soutien, une logistique, tu es co-belligérant. Et là, ce qui est terrible, c'est que la France ne veut pas faire la guerre à la Russie. Le peuple français ne le souhaite pas.
Le peuple français, mais est-ce que les élites ne cherchent pas la guerre, justement ?
Mais moi, je pense que les élites cherchent la guerre, qu'ils font tout d'ailleurs pour ça et qu'ils viennent de la déclencher malgré le peuple français. Et c'est pour ça que je trouve que la situation est suffisamment grave aujourd'hui pour que les parlementaires, et si tu veux bien, on va y venir, que ce soit le Sénat...
On va en parler parce que on va lire...
et l'Assemblée nationale.
On va lire sur l'article la destitution de M. Macron, l'article 68, et on va en parler. D'ailleurs, c'est là. Hein.
Oui. la situation est suffisamment grave aujourd'hui pour que l'Assemblée nationale exerce son pouvoir, ou le Sénat exerce son pouvoir, pour empêcher cette folie en empêchant la personne qui aujourd'hui occupe l'Élysée d'entraîner notre pays, malgré lui, dans une guerre.
Parce qu'on sent que, malgré tout, avec M. Macron, on a tourné le dos au panache français. Par exemple, je vais prendre l'exemple de ces deux paragraphes. Je pose une question, la même que posa M. de Villepin à son contradicteur, le jour où, par sa voix, la France récusa et le monde en écho, la guerre et ses fauteurs, en quoi la nature et l'ampleur de la menace justifient-elles ici le recours immédiat à la force ? Monsieur Kant a eu et a dit à vous prêchez pour l'enfer de façon si tenace. Et à l'époque, la France, c'était encore quelque chose.
Oui. La grande différence, quand tu compares, puisque comme je le fais dans ce livre, le discours de Monsieur de Villepin à l'ONU ce jour-là et le discours que prononça Monsieur Perlin-Pimpin devant une salle aux trois quarts vide, c'est que ce jour-là, quand Monsieur de Villepin parla, la salle était...
Sais-tu ?
Elle était d'abord pleine à craquer. Tous les ambassadeurs des pays qui ne faisaient pas partie du Conseil de sécurité étaient présents pour soutenir le discours de Monsieur de Villepin, qui a parlé au nom du monde entier. C'est la voix de la France s'exprimer à ce moment-là au nom de la majorité des pays qui étaient présents ce jour-là via leurs ambassadeurs. Et en fait, c'était la voix de la France qui s'exprimait et qui prêchait la paix et non la guerre, et qui s'opposait aux géants américains qui agitaient une fiole en prétendant qu'il tenait dans sa main la preuve que l'Irak détenait des armes de destruction massive, ce qui était faux, hein, une fois de plus, le mensonge de la propagande des États-Unis et de l'OTAN. Les mondialistes, on va dire, parce que les États-Unis, c'est un peuple, un grand peuple, et les mondialistes qui gouvernaient à l'époque, déjà. Et en fait, j'ai été fier, comme j'ai rarement été fier de mon gouvernement. Et d'être français. Quand j'ai entendu la voix de M. de Villepin, qui est un poète, hein, faut le rappeler, c'est pas mal de temps en temps les poètes dans un gouvernement.
Il a écrit d'ailleurs des beaux bouquins, dont Esprit de cour, ouais. C'était un extraordinaire livre.
Mais des poèmes, hein,
des poèmes aussi.
Moi, je tiens M. de Villepin pour un authentique poète. Et là, on entendait la voix de la France, la vraie voix de la France, celle qui se bat pour la paix, celle qui prêche pour la paix, pas celle qui exhorte les gens à la haine et au rejet de l'autre et à la guerre. Ça, c'est pas la voix de la France. C'est pour ça que ce type ne représente pas la France. C'est pas simplement parce qu'il a été élu par la fraude et pas par la réalité d'un vote. C'est aussi parce qu'il ne représente pas, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, les valeurs de notre pays. Et là, ce jour-là, à la fin du discours de Monsieur de Villepin, il y a eu ce silence extraordinaire, parce que c'est pas le silence d'une salle vide comme pour monsieur l'occupant de l'Élysée, c'était le silence d'une salle pleine qui tout d'un coup se tait, et tout d'un coup les ambassadeurs des pays qui ne faisant pas partie du Conseil de sécurité qui étaient présents dans la salle se sont mis à applaudir. Le monde entier a applaudi la France qui demandait la paix et qui refusait de se laisser entraîner dans une guerre qui était une guerre illégitime. Et ça, pour moi, c'est ça la véritable image de la France. C'est celle que je veux pour mon pays. Et pas celle d'une espèce de Jupin, qui envoie des éclairs en disant « il faut aller tuer des Russes », etc., etc. C'est horrible.
Qu'est-ce que vaut aujourd'hui la voix de la France, d'après toi, dans le monde ? Est-ce qu'on attend encore la voix de la France ?
Alors, le problème, c'est est-ce que quand on parle de la France, on parle de l'occupant d'Élysée ? Parce que si tu me parles de lui, plus personne dans le monde ne peut le supporter. Plus personne dans le monde.
Justement, est-ce que ces pays étrangers attendent quelque chose de la France, peut-être du peuple français ? Justement, est-ce qu'ils attendent cette destitution aussi ? Parce qu'ils ne reconnaissent plus la France actuelle.
Moi, je pense que tout le monde en a marre de lui et que, franchement, le jour où les députés et les sénateurs prononceront sa destitution, ça sera un soulagement pour le monde entier. Madame Meloni, elle va reprendre des moules. Hein. Je veux dire, elle va faire la fête, elle va hop, faire péter le bouchon de champagne. Plus personne, Scholz lui parle plus. Je veux dire, Monsieur Poutine, c'est même pas la peine d'en parler. Erdogan veut plus en entendre parler. Que tu ailles, où que tu ailles, à part peut-être Trudeau, qui a peut-être un gars de sa, je sais pas, qui était. Un petit copain de je ne sais pas quoi, qui a l'air de...
Est-ce que tu penses que les peuples du monde, que ce soit européens, occidentaux, même orientaux, ou africains, tiens, aussi, attendent un réveil français?
Je crois que le monde entier, aujourd'hui, attend son départ, à lui, hein, l'occupant de l'Élysée. Et le monde entier, aujourd'hui, a besoin de retrouver la France dont je parlais tout à l'heure, celle de
la
monsieur...
La France, elle manque?
La France du discours de Monsieur de Villepin, oui, elle manque. Elle manque à tout le monde parce que c'était un phare, c'était un repère, c'était un pays qui représentait, qui aux yeux du monde entier, justement, la défense des droits humains, le maintien des droits humains. Là, c'était une sorte de tabernacle où justement les droits humains étaient préservés par une pensée, par une tradition, par un esprit. Et aujourd'hui, tout ça est en train de passer à la trappe à cause d'une personne qui mutile l'image de la France, qui mutile la France d'ailleurs tout court, puisque il brade tous les trésors de la France et tout le bien public qui va vendre une poignée de cerises à des puissances étrangères ou des puissances financières non résidentes et faisant partie de ses amis et qui le financent, etc. Puisqu'il bafoue les idéaux de la France, il bafoue les lois de la France. Il faut en finir avec cette situation et donc il faut neutraliser cet individu. Il faut le neutraliser. Et en France aujourd'hui, à part l'Assemblée nationale et le Sénat, personne n'a le pouvoir institutionnel et constitutionnel de le neutraliser.
Alors, j'ai un beau passage, parce que là tu parles de la perfide Albion, et forcément, ben moi ça me parle, le passage sur Napoléon. Même Napoléon Ier en fit les frais, lorsqu'après Waterloo, l'addition des Anglais, en retour du blocus, arriva sur la table. La France alors versa à la perfide Albion 700 millions en or pour indemnisation. De ce que coûta le blocus continental, il fallut rembourser aux Anglais le total. Les sanctions pour les Russes seront salutaires, ainsi que le blocus le fut pour l'Angleterre. Et la France, pour avoir prôné les sanctions, en paiera le tribut, en paiera l'addition. C'est l'histoire qui se répète.
Oui, l'histoire se répète. Et comment se peut-il qu'on ne retienne pas les leçons de l'histoire? Je veux dire que les sanctions n'ont jamais profité à ceux qui les ont imposées. Les sanctions. Et les sanctions, ça a toujours servi les intérêts des sanctionnés, pas des sanctionneurs. Et dans l'histoire de France, en tout cas, en particulier, je rappelle que Napoléon Ier, qui avait ordonné le blocus continental, après Waterloo, il a été obligé de, enfin, la France a été obligée de rembourser les Anglais. 750 millions de francs or. C'est faramineux comme somme. Tu vois, et ça va être la même chose pour les sanctions dont les Russes, mais se moquent. Comme de, c'est pas un problème pour eux, ça va être un vrai problème pour nous. Ces sanctions, elles sont grotesques. Elles ne sanctionnent que ceux qui que les sanctionneurs, pas les sanctionnés, et on en paiera le prix comme on le paya à l'Angleterre après la chute de Napoléon Ier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que les Français et les Françaises fassent de plus en plus, c'est relire leur histoire. Parce qu'on apprend beaucoup de notre histoire. Mais pas le récit national, hein, l'histoire. Ce qui est une différence entre le récit national et l'histoire. Le récit national, c'est l'histoire racontée par ceux qui veulent nous vendre quelque chose, une image de la France qui les arrange, et ce sont souvent des néolibéraux, hein. Ce sont les héritiers de ce que j'appelle l'extrême centre, hein, qui est pire que tous les autres extrêmes. Parce qu'il est supposé représenter le camp du bien et des gentils. Mais
justement, toi, l'histoire, t'en es baigné. D'ailleurs, il y a énormément de références historiques dans ce livre. Et donc, tu les partages avec nous. Et justement, ton but aussi, c'est de pas refaire ces erreurs.
Ah ben le but de connaître,
que les gens soient informés.
Le but de connaître de l'histoire, c'est justement de ne pas répercuter les mêmes erreurs. Or, il y a une espèce de constance comme ça à répéter les mêmes erreurs qui vient de l'ignorance, hein, qui vient du fait qu'on ne s'intéresse pas à son passé. Tu sais, on a fait longtemps croire aux gens que le diable était le diable. Et puis un jour, on a décidé que le diable, c'était Hitler, tu vois, et puis quand Hitler a disparu, on s'est dit « le diable est mort ». Mais le diable n'est pas plus mort que Dieu, hein, comme le prétendait Nietzsche. Hein?
Le diable est toujours là, il rôde,
mais
il veut amener ses desseins sur le monde.
Il y en a. Le diable, il est dans l'âme humaine, et pour s'en défaire, il faut purifier cette âme humaine. Et pour ça, il faut essayer d'aller vers ce qui unit les hommes, pas ce qui les sépare ou ce qui les éloigne. On ne fait pas la paix en attisant la guerre. On fait la paix en réunissant à sa table les belligérants, en faisant de la diplomatie, en essayant de trouver un accord qui soit bon pour l'un, bon pour l'autre, et dont d'ailleurs l'arbitre peut demeurer le garant.
Est-ce que le diable aujourd'hui, c'est le mondialisme, c'est le Forum économique mondial, c'est les desseins du Grand Reset, c'est tout ce qu'on veut imposer au peuple souverain?
C'est tout ce qui nuit à l'être humain et à sa capacité de s'unir à son prochain. C'est tout ce qui entraîne l'être humain vers la guerre, la violence, la destruction. Maintenant, j'ai presque envie de te dire, mais là c'est plus, j'ai envie de dire pour rire, mais en même temps, je sais pas si c'est si drôle que ça. L'autre jour, je me baladais c'était le boulevard Saint-Michel. Et puis, tu sais, quand tu continues boulevard Saint-Michel, tu arrives à la fontaine Saint-Michel. Il y a Saint-Michel qui terrasse le diable. Au début, cette fontaine, ça devait être un hommage à Napoléon Ier, et puis ils y ont renoncé, etc. Et ils ont décidé de réaliser cet ouvrage. Hein. Et je me retrouve face à face, je ne sais pas pourquoi, hein, dans l'angle où j'étais, je me retrouve face à face avec la statue qui représente le diable, hein, qui a été sculptée donc il y a un moment déjà. Hein. Monsieur Perlin-Pimpin n'était pas né encore. Hein. Et tu le crois ou tu le crois pas, mais je t'enverrai une photo si tu veux. C'est le portrait de l'actuel occupant de l'Élysée. C'est son portrait. Voilà. Voilà, donc avant sa naissance, quelqu'un a représenté le diable avec sa tête.
Bah, tu sais.
Donc peut-être que c'est lui la bête de l'événement dont il nous parle.
Tu sais, il y a quelqu'un que tu connais, que sont tous les deux parce que c'est l'ami commun, c'est Nicolas Stocker.
Oui.
De Radio Courtoisie.
Que nous saluons.
Que nous saluons, évidemment. Il se trouve qu'il est administrateur du lycée où enseignait Samuel Paty.
Oui.
Et au lendemain, de l'assassinat de Samuel Paty,
oui,
est venu M. Macron et l'ensemble du gouvernement. Et il m'a raconté cette anecdote. Il ne sait pas pourquoi Macron est venu le voir. Bon. Et Macron, tu sais, il est très tactile.
Non, je ne sais pas, et heureusement d'ailleurs.
Non, mais je veux dire, tu sais, dans le sens où on voit dans les images à chaque fois.
Oui, il a les mains baladeuses.
Voilà.
Oui, oui, oui.
Voilà. M'a dit qu'il a tenu comme ça Macron par l'épaule et il l'a regardé. Bon, je crois qu'il a vu deux, trois trucs. Et Nicolas m'a dit que dans ses yeux, je te promets, hein, et pourtant, je ne pense pas que Nicolas soit. Je ne sais pas que c'est pas qu'il n'est pas croyant, mais je ne pense pas qu'il soit dans la.
Il est plutôt rationnel, voilà. Nicolas.
Et il m'a dit j'ai cru voir le diable. Dans ses yeux. Il m'a dit, dans ses yeux, j'ai cru voir le diable.
Mais on voit souvent quelque chose de pas tout à fait humain dans son regard. Hein. Des fois, on a l'impression qu'il est téléguidé, tu sais, qu'il reçoit des fréquences. Il parle comme ça et tout d'un coup, puis il embraye. Enfin, il est un peu bizarre, quoi. Mais enfin, bon, là, on...
Mais de plus en plus de gens me parlent... utilise ce champ lexical que moi, je n'entendais pas il y a quelques années.
Il a commencé, lui, avec ça, à nous parler de la bête, de tout ça. Machin. Et puis, finalement, on s'aperçoit que dans sa façon, en tout cas, de penser ce qu'il est, il y a quelque chose d'éminemment pervers. Moi, je pense que cette personne est un psychopathe. Enfin, j'en ai parlé avec beaucoup de psychiatres. Il présente tous les symptômes d'une personne qui a des troubles du comportement liés à une forme de psychopathologie. Et je pense qu'il est temps de faire en sorte que cette personne ne soit plus en état de nuire au peuple français, parce que je trouve que c'est un individu qui me semble dangereux. Pour moi, la façon dont il se conduit déjà et dont il gère les affaires de la France est un danger pour la France, mais lui-même, sa personne. Moi, je trouve que cet individu, il présente toutes les caractéristiques d'une personne dangereuse sur le plan psychique.
Alors, je vais lire encore d'autres vers, évidemment. L'oncle Sam, qui oublie le serment Kayalta, se firent les alliés de rester en l'état. Un rempart permanent contre le cataclysme que représentait le regain du nazisme. Est-ce que aujourd'hui, la France actuelle, ou plutôt, non, l'État actuel, est devenu une sorte de vassal des mondialistes américains? Est-ce que nous sommes sous influence?
Oui, nous sommes plus que sous influence. Nous sommes, enfin, nous, le gouvernement français porte les valises de l'OTAN qui sert les intérêts des États-Unis. Et les États-Unis, au premier coup de Trafalgar, si ça chauffe pour eux, ils se mettront complètement à l'abri et ils abandonneront tous ceux qui veulent aujourd'hui être les alliés des États-Unis dans leur désir de dominer et de conduire l'Europe. Ça, c'est sûr que l'Europe est un outil des États-Unis. C'est pas du tout un allié pour eux. C'est qu'un instrument. Et d'ailleurs, la destruction de l'Europe fait partie du projet des mondialistes américains. Et on se sert de l'Europe à la fois pour nuire aux Russes et à la fois on se sert de cette situation pour que l'Europe soit détruite. L'Europe est un outil contre les Russes et en même temps un rival dont on veut potentiel dont on veut se débarrasser. Donc les États-Unis jouent dans cette affaire un rôle qui est néfaste pour nous, et il est temps qu'on se libère de cette emprise.
Comment s'en libérer aujourd'hui?
Bon, déjà il faut en finir. Nous il faut plus qu'on, d'une manière ou d'une autre, on soit relié à l'OTAN, ça c'est sûr. Il faut surtout, j'en reviens toujours là, faire en sorte que la personne qui, à l'heure actuelle, occupe l'Élysée soit destituée. Il faut en parler de ça, parce que c'est si il n'est plus j'allais dire s'il n'est plus au poste qu'il occupe actuellement, il ne sera plus en état et en mesure de faire ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire de concentrer tous les pouvoirs entre ses mains et d'être le seul à prendre les décisions pour notre pays.
Alors, je vais lire deux vers. Les deux chambres devront se saisir comme suit, opposer au tyran l'article 68, et deuxième paragraphe, attendu que ceci dans l'esprit, dans les textes, et bien la preuve d'un manquement manifeste aux obligations du président, les Français ont de droit le devoir d'en faire le procès. Et pour cela, je dis qu'ils doivent, comme suit, opposer au tyran l'article 68. Donc c'est possible, la destitution, elle est possible.
Oui, elle est possible, et c'est même le seul pouvoir aujourd'hui qu'il reste à l'Assemblée. Et je ne comprends pas, alors qu'on a une personne à l'heure actuelle qui se prétend chef de l'État et qui utilise finalement tous les pouvoirs qui sont à sa disposition pour empêcher l'Assemblée nationale de jouer son rôle, hein, qui est aussi d'arrêter le pouvoir, hein, selon l'expression de Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir, sinon il n'y a pas de démocratie dans un principe représentatif, c'est-à-dire républicain. Et donc cette personne aujourd'hui, elle use de tous les moyens que fournit la Constitution pour empêcher l'Assemblée de jouer son rôle. Donc, elle, là, on en est au cinquième 49-3. L'autre jour,
sixième.
L'autre jour, il y a eu un vote où la volonté présidentielle a été mise en minorité et les ministres ont fait des amendements pour faire de l'obstruction à ce vote majoritaire de l'Assemblée. Donc, on a une personne qui, elle, n'hésite pas à utiliser les moyens constitutionnels pour contrevenir aux droits du Parlement et à la bonne exécution du principe républicain. Et je ne comprends pas pourquoi l'Assemblée nationale, en riposte, n'use pas de son droit.
Oui, parce que, regarde, aujourd'hui...
Et de son pouvoir.
Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, l'opposition est majoritaire. Il y a eu des motions de censure qui ont été présentées par la NUP, que le RN, pour le coup, a voté avec intelligence, mais ce que n'a pas fait le LR.
Oui, alors, ça, c'est le problème des motions de censure. C'est très compliqué, une motion de censure. Même quand tu as une opposition réelle, à charge pour elle aujourd'hui de nous prouver qu'elle est réelle à l'Assemblée nationale. Parce que finalement, voilà, on présente une motion de censure, il faut que la majorité des parlementaires la vote, etc. Il suffit à ce moment-là d'un peu de lobbyisme pour obtenir les deux ou trois voix qui te manquent et qui empêchent la motion de censure, etc. Mais pourquoi vouloir censurer le gouvernement ? Alors que ce gouvernement est de pure apparence. La seule personne qui gouverne en France, c'est l'actuel occupant de l'Élysée. C'est lui, c'est lui qui prend toutes les décisions. Le gouvernement n'a aucune autonomie. Le gouvernement, il obéit. C'est un gouvernement de bon chien-chien qui fait où on lui dit de faire. Quand on lui dit d'être des amendements pour faire de l'obstruction au Parlement, il le fait. C'est aujourd'hui, il y a une seule personne qui gouverne. Donc si tu veux vraiment censurer le gouvernement, censure cette personne. Parce que censurer cette personne, c'est beaucoup plus facile que de faire voter une motion de censure où en plus il faut trouver des accords partisans entre partis qui se détestent et qui finalement finissent par mettre leur détestation mutuelle au-dessus des intérêts de la patrie, du
pays. Mais comment ça se passe constitutionnellement une destitution présidentielle?
C'est très simple. C'est beaucoup plus simple qu'une motion de censure. Et en plus, c'est beaucoup plus logique. Parce que je vois pas pourquoi on s'en prend aux marionnettes. Il faut s'en prendre directement aux marionnettistes, hein. Donc, il y a une personne aujourd'hui qui impose sa loi au gouvernement et qui veut maintenant imposer sa volonté aussi à l'Assemblée nationale et qui veut expliquer aux parlementaires qu'ils ne servent à rien, qu'ils soient là ou non. De toute façon, lui, il fera passer les lois que lui veut faire passer, qu'on le veuille ou non. Donc, on est en train d'expliquer aux Français qu'ils paient une fortune des députés juste pour aller brailler à l'Assemblée nationale, gesticuler, dire qu'ils sont pas contents. Mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire, nous, de ça ? On veut des actes, on a marre de la parlotte, on paye pas aussi cher des gens pour qu'ils fassent de la parlotte et qu'ils se filment en train de gesticuler en disant qu'ils sont pas contents à la télévision, à l'Assemblée nationale. Donc, il y a une raison fondamentale pour laquelle c'est plus simple. C'est que pour constituer la haute cour, c'est très simple. Il faut 58 députés ou 33 sénateurs. Voilà. Sur 577, par exemple, députés, tu en as 58 qui forment un groupe, okay, et qui disent « Nous demandons la saisine de la haute cour de justice sur le fondement de l'article 68. » Ça suffit. Il y a tout un protocole à rédiger, qui soit fait état du nom des personnes qui forment ce groupe, hein, qui peut être composé par des députés de toutes tendances d'ailleurs, hein. Pas simplement les députés du même groupe, hein, parlementaire. Et à partir du moment où tu en as 58 qui demandent la saisine de la Haute Cour de justice, à ce moment-là, le Parlement, hein, c'est-à-dire Sénat et Assemblée nationale, c'est pareil d'ailleurs s'il y a 33 sénateurs qui le demandent, hein, indépendamment du Parlement, hein, de l'Assemblée nationale. Ou tu as 33 sénateurs, ou tu as 58 députés, ou tu as les deux d'ailleurs. Bon. Mais 58 députés suffisent pour constituer la haute cour. Et à partir de ce moment-là, l'Assemblée nationale, comme le Sénat, ne sont plus l'Assemblée nationale et le Sénat, ils le sont toujours, bien sûr, mais ils deviennent la haute cour de justice. Et là, à partir de ce moment-là, il y a constitution d'un organe constitutionnel qui s'appelle la haute cour et qui est formé par le Sénat et l'Assemblée nationale. D'accord ? Donc, le Sénat et l'Assemblée nationale constituent la haute cour de justice. Alors, ça pose un premier problème à l'actuel occupant de l'Élysée. c'est que là, il ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale.
Ah voilà, j'allais justement te poser la question, est-ce qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale pour se défendre ?
Non.
Il ne peut pas le faire.
Non. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais il ne peut pas dissoudre la Haute Cour.
D'accord.
Donc à partir du moment où l'Assemblée nationale fait partie de la Haute Cour, il ne peut plus la dissoudre. Il ne peut plus la dissoudre. Tant que le procès va durer, tant que la procédure va durer, il ne peut pas toucher à l'Assemblée nationale.
Ça peut durer combien de temps ?
Ça dépend de la procédure. Dans le détail, je ne sais pas s'il y a des limites qui sont fixées, des limites de temps, je ne pense pas, je ne m'en souviens pas, je ne pense pas avoir lu ça. Il faut relire l'article 68, il a été modifié par Sarkozy, qui, sachant ce qu'il avait fait, a voulu supprimer le délit de haute trahison de la Constitution, et avec ses copains, il l'a fait. Mais aujourd'hui...
Justement, qu'est-ce qu'on pourrait, du coup, si on a supprimé la haute trahison, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher on sait ce qu'on va reprocher, mais quel serait le terme juridique qu'on pourrait employer pour le faire destituer ?
La haute trahison.
Ça a été supprimé ?
Si, ça a été supprimé, mais ça demeure de la haute trahison. C'est-à-dire qu'en fait, le texte, voilà, tu sais que le délit de haute trahison est passible de mort. Enfin,
bien sûr.
Là, on est dans le tribunal militaire, on n'est plus dans le bref. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que dit l'article 68, tel qu'il a été révisé par Sarkozy, dans son propre intérêt, c'est que si le président, je vais essayer d'être un petit peu prosaïque, si le président agit d'une manière qui n'est pas compatible avec son mandat et qu'on peut le prouver, eh bien à ce moment-là, il est passible de destitution. Voilà. C'est-à-dire que il y a un mandat présidentiel qui est fixé par la Constitution, notamment l'article 5, et puis il y a d'autres articles. Par exemple, il faut que tous les articles de notre Constitution soit respectée par les responsables de nos institutions. Si certains responsables de nos institutions ne les respectent pas, eh bien, ils agissent en violation de la Constitution et donc ils se mettent en situation d'être jugés par la Haute Cour de justice.
Comment faire
À partir de ce moment-là, donc, l'occupant de l'Élysée, à partir du moment où 58 députés se sont constitués, ou 33 sénateurs, ou 33 sénateurs et 58 députés se sont constitués, pour demander que sur le fondement de l'article 68 soit constituée la Haute Cour de justice, en tout cas saisie la Haute Cour de justice, à ce moment-là, si tu veux, il va y avoir une procédure qui va s'engager, avec des protocoles de procédure de justice, suite à l'enquête et suite au procès qui aura lieu, et donc où l'occupant de l'Élysée se trouvera à mon avis, ce qui devrait être sa place depuis longtemps, c'est sur le banc des accusés, eh bien, il va y avoir finalement un vote des deux assemblées. Et les deux assemblées devront se prononcer, avec une très grosse majorité d'ailleurs.
C'est combien ? Est-ce que c'est les 3/5 comme pour la révision de la Constitution ? Ou c'est plus ? Ou
c'est moins ? Autour de ça. Je ne peux pas te dire de mémoire, mais c'est pas la moitié plus une voix, c'est les deux tiers, un truc comme ça. Ouais, peu importe. De toute façon, c'est fait pour que ça ne soit pas possible.
Mais comment faire ?
Mais j'y viens.
Ouais. Allez,
mais j'y viens. Qu'est-ce qui est important dans le fait de faire comparaître l'actuel occupant de l'Élysée ? C'est pas forcément qu'on en vienne à la destitution. Maintenant, mettons qu'on en vienne à la destitution, ce qui pour moi serait le miracle français, la France qui renouerait avec sa philosophie, avec son âme, avec son courage, avec sa légende, etc. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ce que les Américains ont fait à Nixon, pourquoi nous on ne pourrait pas le faire, mais peu importe. Mettons que... Enfin, si on le fait, alors on pourrait dire à ce moment-là, qu'est-ce que risque la France ? Qu'est-ce que risque la France ? Il y a des procédures dans la Constitution en cas de défaillance du président. On l'a connu avec De Gaulle, par exemple.
On mettrait le président du Sénat.
Oui, monsieur.
Voilà.
Donc, si le président de la République est destitué, ce qui est souhaitable pour notre pays, on mettra le président du Sénat à sa place jusqu'à la fin du mandat qui était prévu. Il assurera très bien ce rôle. Il ramènera pas sa fraise. Il fera pas son cinéma. Il fera pas son numéro. Il présentera pas jouer au Jupiter de service, etc., etc. Et donc, la France ne risque rien, l'Assemblée nationale ne risque rien, au contraire, elle se met à l'abri de quelqu'un qui menace en permanence de l'Assemblée nationale de dissolution. Donc la France ne risque rien s'il est destitué. Et je pense que l'Assemblée va reprendre son rôle qui est de faire les lois, l'exécutif va reprendre son rôle qui est de les exécuter, et chaque corps intermédiaire va surveiller l'autre pour que le pouvoir arrête le pouvoir, comme doit fonctionner une république digne de ce nom sur les conseils de Montesquieu. Et donc, après, il y a l'autre solution. La solution, c'est finalement, les pourris vont l'emporter, il n'y aura pas une majorité qui se prononcera pour la destitution, il ne sera pas destitué. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Pendant le temps de la procédure, les Français et les Françaises connaîtront la vérité. La vérité sur cette personne, sur la façon dont il a financé son parti politique, sur la façon dont il a détourné l'argent des Françaises et des Français en prétendant faire des aides au développement de d'autres pays que je ne citerai pas, la façon dont il a voulu influer sur la presse pour malmener la dissidence et pour empêcher la liberté d'expression, pour la façon dont cette personne a dévoyé nos institutions, dont elle a livré des secrets défense à l'étranger, dont elle a organisé une collusion avec des puissances multilatéralistes et engagé l'honneur de la France et l'avenir de la France pour servir des intérêts étrangers. On va instruire le dossier. Les gens qui auront demandé sa destitution, ils vont nourrir ce dossier. Ils vont pas demander la destitution juste comme ça pour faire joli. Il va y avoir des gens, enfin, des députés ou des sénateurs qui vont se mobiliser pour démontrer que cette personne a détourné notre Constitution aux dépens de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et ça, rien que ça déjà, ça vaut une destitution. Parce que même si par magouille politicienne et par trafic d'influence au sein de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas le nombre de votes pour la destitution, il aura été destitué par le pays. Toutes les Françaises et tous les Français sauront qui est cet individu et l'auront destitué dans leur cœur déjà et dans leur esprit. Et c'est ça qu'il faut. Il faut arrêter de subir les mensonges de cette personne. Il faut arrêter de subir les abus de pouvoir de cette personne. Et pour ça, il faut lui rabaisser son caquet déjà. Lui rabaisser son caquet, mettre fin à son arrogance. C'est-à-dire que là, c'est lui le maire, c'est lui qui dit, c'est lui qui décide. Non, tu es sur le banc des accusés et tu vas devoir montrer patte blanche et tu vas devoir prouver que tu es innocent malgré tout. Parce que nous avons des faits qui démontrent ta culpabilité. Il va falloir démonter ces faits que nous allons nous présenter au vu de la cour et au vu du peuple français. C'est ça l'intérêt déjà, c'est de stopper cet individu qui là maintenant n'a plus aucune limite. Il n'a plus aucune limite, il est en roue libre, il n'est plus arrêté par personne et il se pense plus arrêtable par personne. Donc, comment se fait-il que l'Assemblée nationale, qui est menacée de dissolution en permanence, voyant que notre pays est menacé par une personne qui est en train de concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, comment se fait-il que l'Assemblée nationale, qui a le pouvoir de le stopper, ne le fasse pas? Comment se fait-il que l'Assemblée nationale, qui a le pouvoir d'arrêter le pouvoir, n'arrête pas le pouvoir? Alors c'est là que je ne comprends pas, parce qu'il y a deux solutions. Ou l'Assemblée nationale est composée de gens incompétents.
Ce qui est possible.
Ce qui est extrêmement grave. Ignorant des droits et des pouvoirs de l'Assemblée. C'est très inquiétant pour notre pays. Et il faut que les Français sachent qu'ils ont élu des gens incompétents de manière à ne pas réitérer cette erreur, voire cette faute. Ou alors, ça veut dire que les partis qui représentent l'opposition aujourd'hui à l'Assemblée nationale ne sont pas une opposition réelle.
Ce qui est possible aussi.
Mais une opposition contrôlée.
C'est possible, c'est fort.
Et il faut que les Françaises et les Français le sachent, de manière à ne plus voter jamais pour ces gens-là, c'est-à-dire de ne plus voter pour les partis politiques. Maintenant, je l'ai dit à certains députés qui me suivent, qui sont d'accord avec moi. Je ne dirai pas leur nom parce que je ne veux pas qu'ils aient d'ennuis au sein de leur propre formation. Moi, je leur ai dit la chose suivante. Moi, si demain, il y a un parti, un groupe à l'Assemblée qui s'organise pour avoir 58 députés et demander la saisine de la Haute Cour de justice sur le fondement de l'article 68, moi je prends la carte de ce parti. Parce que ce parti m'aura prouvé qu'il n'est pas une opposition contrôlée, mais une opposition sincère. Et j'ajoute, si tu me le permets.
Bien sûr.
Tu me pardonneras. Et je crois en la sincérité d'une grande partie des députés. C'est une nouvelle assemblée. C'est pas l'assemblée de corrompus du précédent quinquennat. Ce sont de nouveaux députés. Il y a beaucoup de jeunes députés, d'ailleurs pas simplement en âge, ils le sont pour la première fois. Et je veux croire en la sincérité de ces députés. Là où j'ai un problème, c'est avec
les anciens.
Non, les ceux qui sont à la tête des groupes.
D'accord.
Moi, que Madame Le Pen se moque de savoir comment elle a pu perdre 2 millions de voix entre 20h30 et 21h30 en direct à la télévision, et qu'elle ne veuille pas faire un pataquès avec ça, ça la regarde, quelque part, ça ne me dérange pas. Mais que Madame Le Pen puisse empêcher 58 députés issus de sa mouvance de se constituer pour demander la saisine de la Cour de justice, ça, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi elle ferait ça. Et d'ailleurs, pourquoi elle n'agit pas, justement, à la limite, pour demander à ses députés de le faire. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si tu es vraiment l'adversaire politique de quelqu'un qui est au pouvoir, et que tu as le pouvoir de le neutraliser, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi? Faisons un peu d'histoire. En plus, son père est militaire. Je ne pense pas qu'il approuve sa position. Quand Napoléon, à la bataille d'Austerlitz, décide de placer son artillerie sur le plateau de Pratzen, qu'il identifie comme étant un point très important, un point fondamental, pour justement pouvoir contrôler le mouvement des troupes ennemies en ayant une position forte avec son artillerie. Et donc, il avait une artillerie qui était très, très mobile, Napoléon. Je connais toutes les batailles de Napoléon par cœur parce que la stratégie, connaître de la stratégie, c'est former son esprit au combat, qu'il soit politique, social ou militaire. Le combat. Il décide de placer son artillerie sur le plateau de Pratzen. C'est lui qui a cette idée. Il a une idée derrière la tête. Quand les Autrichiens s'enfuient et partent sur les lacs gelés, ils partent sur les lacs gelés pour s'enfuir. Est-ce que Napoléon les a laissés s'enfuir en faisant du patin sur les lacs gelés? Non. Il avait gagné la bataille. Hein. La bataille était gagnée. L'armée autrichienne était en déroute. Elle s'enfuit sur les lacs gelés. Qu'a fait Napoléon? Il a fait tirer à boulets rouges sur les lacs gelés. Et l'armée autrichienne s'est noyée. Il a détruit l'armée autrichienne. Pourquoi tu es gentil avec un adversaire quand tu es en position de force? La seule raison pour laquelle tu es gentil avec ton adversaire, c'est que c'est pas ton adversaire. Déjà, tu es gentil avec lui parce que déjà, tu râles pas quand il t'a piqué ou il t'a fait disparaître 2 millions de voix à ton élection. Ok. Mais ça peut être de la grandeur d'âme aussi. Hein. Mais là, quand tu as la tête d'une force d'opposition comme celle qui existe en ce moment à l'Assemblée nationale, tu as le pouvoir de le neutraliser, tu ne le neutralises pas et tu fais de la motion de censure qui ne sera pas votée, dont tu sais très bien qu'elle ne sera pas votée parce que tu sais très bien que les LR vont se coucher. Il ne faudrait peut-être pas me prendre pour un imbécile, moi, citoyen français, ou moi, citoyenne française. Il faudrait peut-être arrêter de me prendre pour un imbécile. Pourquoi tu ne tires pas à boulets rouges sur le lac gelé pour engloutir l'armée autrichienne, alors que tes canons sont sur le plateau de Pratzen? Je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Et il va falloir qu'on m'explique. Parce que moi, comme beaucoup de Français, j'ai vraiment cru, et je crois vraiment, et je veux vraiment croire que cette opposition est réelle. Mais s'ils n'utilisent pas ce pouvoir qui est le seul moyen à l'heure actuelle d'arrêter le pouvoir de monsieur Pernin Pimpin, si tu n'utilises pas ce pouvoir, c'est que tu es de mèche avec lui. Je vois pas d'autre raison. Je parle pas de Monsieur Mélenchon, parce que Monsieur Mélenchon, pour moi, c'est la pochette surprise. Son histoire de Nipes, c'est juste un truc. Je n'y crois pas un seul instant. Tous ces gens se détestent à l'intérieur de cette fausse union, qui est juste une union d'opportunités pour former un groupe important, essayer de faire du trafic d'influence à l'Assemblée nationale. Donc, je ne crois pas du tout en lui, voilà. Peut-être que parmi ces députés, il y en a qui sont sincères, ça, je veux le croire, je l'espère, en tout cas, les nouveaux, en tout cas. Mais non, aujourd'hui, mon espoir, il est un petit peu double. Je le mets soit dans un sursaut de lucidité des députés du Rassemblement national et de la personne qui les dirige, soit, suite aux dernières déclarations de M. Marleix, dans le groupe LR. Et le groupe LR, aujourd'hui, qui a déçu vraiment les Françaises et les Français en se couchant au moment de la motion de censure, en refusant de la voter, donc en favorisant l'actuel occupant de l'Élysée, là, franchement, il est en perte de vitesse, ce groupe. Il vaut plus rien. Pratiquement, les gens ont été déçus. Si là, on repartait, l'Assemblée nationale était dissoute, là, je pense qu'ils feraient même plus le nombre de députés qu'ils ont fait, tellement ils ont déçu les Françaises et les Français. Mais moi, quand j'ai entendu parler M. Marleix à l'Assemblée nationale, moi, là, j'ai reconnu le discours que j'attends d'un député. Et je me suis dit peut-être que finalement, on n'a pas compris ce qui s'est passé au moment du vote de la motion de censure. Peut-être que ils ont merdé, peut-être qu'ils n'ont pas très bien compris la situation, mais peut-être qu'ils ne sont pas cul et chemise avec l'actuel occupant de l'Élysée. Peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'il y a une vraie révolte au sein de ce groupe.
Moi, ça veut dire que tu penses qu'à l'avenir, dans un an, en 6 mois, un an, peut-être qu'ils t'écouteront?
Ah non, c'est pas dans 6 mois, dans un an, c'est avant Noël. Parce que si ça se passe pas avant Noël, si ça se passe pas avant l'année prochaine, là on va repartir là, hein, dans les mesures répressives, les conseils de défense, les couvre-feux, les confinements, ça y est.
Puis, oui, on parle aussi de la retraite là, qui va être, le texte va être déposé le 15 décembre.
49-3 et en avant. Donc, là où on l'arrête, et c'est tout de suite. Ou alors, c'est foutu pour les Françaises et les Français. Et
moi, tu lances cet appel.
Je lance cet appel à M. Marleix et à tous les députés LR dignes de ce nom. Faites de votre groupe le premier groupe de l'Assemblée nationale. Et écrivez l'histoire de France. Écrivez l'histoire de France. Parce que si vous le faites, si votre groupe le fait, et il peut le faire à lui tout seul, parce que les 58 députés, ils les ont. Vous allez écrire une page importante de l'histoire de France.
Ils ont les sénateurs aussi.
Vous avez les sénateurs aussi. Vous allez écrire une page importante de l'histoire de France et vous allez sonner le réveil du cercle vertueux au sein de nos institutions. C'est-à-dire que vous allez rétablir le cercle vertueux. C'est-à-dire que vous allez rappeler à tous la véritable fonction de l'Assemblée nationale. Vous allez rendre à l'Assemblée nationale son honneur perdu et sa fonction dans la République. En disant à la personne qui agit comme un tyran, tu n'as pas le droit d'agir comme un tyran et tu vas être jugé pour cela, par nous, les représentants du peuple. Ceux qui, dans la salle du jeu de paume, ont dit « nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes », eh bien, nous serons les héritiers de cela.
Mais est-ce que nous, peuple, on peut, entre guillemets, faire pression sur ces élus pour qu'ils agissent? Pour qu'ils agissent.
Moi, je pense,
est-ce qu'il faut le faire?
Moi, je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut que tous ceux qui sont d'accord avec moi n'hésitent pas à prendre leur téléphone, appeler leur député, laisser des messages sur les emails du député en exigeant qu'il demande la saisie de la Haute Cour de justice, qu'il agissent sur le fondement de l'article 68, oui, il faut envoyer des emails, faire une pression sur...
Ça sert, parce que ça sert.
Oui.
Parce que les gens se disent, mais ça ne sert à rien. Si, ça sert.
J'en ai parlé avec un député, je lui ai demandé, je lui ai dit, si les gens insistent, il me dit, non, mais nous, on est sensible à ça. Forcément, on est sensible à ça. Parce que c'est des électeurs, des électrices, en puissance. s'ils sont nombreux à me demander quelque chose, et si je ne le fais pas, je vais faire de nombreux mécontents et de nombreuses mécontentes. Donc bien sûr que ça a une influence sur les députés. Et bien sûr que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement sans risquer de se faire crever un œil ou arracher un bras ou maltraiter dans une manifestation. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de chez soi et il faut le faire et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut que les citoyennes et les citoyens français exigent de leurs députés.
Donc écrivez à vos députés, oui, appelez-les dans les permanences, oui, ou à l'Assemblée nationale.
Oui.
Vous trouvez d'ailleurs leurs coordonnées sur le site de l'Assemblée nationale et sur le site du Sénat.
Oui,
je veux dire. C'est
oui,
très facile.
Oui. Écrivez aux sénateurs, écrivez à vos députés et exigez l'application de l'article 68. Et moi, je pense que c'est le moment, et on est dans une bascule où je sens qu'il y a de la bonne foi à l'Assemblée nationale. Je ressens moins bien le Sénat parce que le Sénat... Je comprends pas très bien le Sénat. J'ai vu des sénatrices, des sénateurs dire des choses qui allaient dans le sens de ce que nous disons nous résistants, mais les actes ne suivent pas.
Il y a quand même Alain Houpert et certains.
Alain Houpert, bravo Alain Houpert. Mettez-moi 577 mais, Alain Houpert à l'Assemblée nationale et la République renaît.
Non, non. Tu sais que au Sénat, moi j'ai été pendant 6 ans attaché parlementaire au Sénat. Il y a,
personne n'est parfait, donc.
Voilà. Mais il y a, tu vois, un salon qui s'appelle le Salon Pourpre.
Oui.
Et il y a le Salon Napoléon, parce que le Sénat est une création napoléonienne. Et tu as là-bas, dans ce Salon Pourpre, un grand, une grande plaque avec écrit de la main de Napoléon. C'est Napoléon qui dit aux sénateurs, justement, d'être derrière le peuple, d'être toujours avec le peuple. Et c'est un truc qu'on voit tous les jours, hein, même d'ailleurs le trône de Napoléon. Et donc, moi, je suis persuadé que si les sénateurs écoutent l'appel du peuple,
ouais,
qu'ils tempèrent, ça, j'en suis sûr.
Il faut croire en ça. Et d'autant plus que, voilà, les mandats ont été renouvelés et qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Et je sens, moi, qu'il y a quelque chose. Je sens dans tous les groupes qu'il y a quelque chose qui a bougé. Un ras-le-bol d'être traité comme des moins que rien par un petit arrogant paltoquet qui se prétend président alors qu'il ne l'est pas et qui concentre tous les pouvoirs et qui explique à tout le monde que de toute façon, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, il imposera sa volonté. On peut pas, c'est pas la France, ça, c'est pas notre pays, c'est pas nos institutions.
Justement, oui, je vais lire 2 paragraphes.
Je t'en prie.
Qui sont magnifiques. Ode à la France et au peuple français. Éveille-toi, ma France, il est temps de renaître, il est temps dans le mur d'ouvrir une fenêtre, il est temps de rejoindre avant ta destruction celles et ceux qui luttent, qui sont dans l'action. Éveille-toi, ma France, il est temps de le faire, il est temps de remettre un pied dans tes affaires, il est temps pour toi de retrouver ton statut dans le monde et en toi ce qui fit la vertu.
Oui, ce qui fit ta vertu.
Ta vertu, pardon.
Non, non, mais j'aurais pu dire la vertu, parce que la vertu, c'est ta vertu. La vertu de la France, ça a toujours été la sienne et celle du monde. Je veux dire que la France a toujours été une vitrine pour le monde et tout ce qui se passe en France a toujours été regardé.
Tu nous montres le livre aux gens.
Oui.
Voilà. Achetez ce magnifique livre, Lettre en vers à l'occupant de l'Elysée, à la représentation nationale et au peuple français. Aux éditions, c'est Novimondi.
Alors, Novimondi, pardon. Novimondi.com.
Voilà, Novimondi.com, vous le trouverez là-bas.
Novimondi.
Et on va le mettre en description en dessous, juste après.
Oui, parce que c'est un livre qui est censuré. Hein, c'est un livre qui est censuré. Donc, vous n'en entendrez pas parler dans les médias de complaisance. Vous ne le verrez pas en librairie. Et si vous voulez l'acquérir, il faut...
Cette ode à la France, comment tu l'as écrite? Parce que vraiment, il est magnifique. Ce texte est fabuleux.
Merci.
Enfin,
tu veux que je le lise?
Cette conclusion, ode à la France.
Allez, je te le lis. Je t'en ai lu une partie déjà tout à l'heure. Éveille-toi, ma France. Il est temps de renaître. Il est temps dans le mur d'ouvrir une fenêtre. Il est temps de rejoindre avant ta destruction celles et ceux qui luttent, qui sont dans l'action. Éveille-toi, ma France. Il est temps de le faire. Il est temps de remettre un pied dans tes affaires. Il est temps pour toi de retrouver ton statut dans le monde et en toi, ce qui fit ta vertu. Éveille-toi, ma France, et prends de l'altitude. Réapprends à t'extraire de la servitude. Montre à celles et ceux qui hésitent, qui doutent, que le peuple est plus fort que tout ce qu'il redoute. Éveille-toi, ma France, au nom des libertés que le pouvoir en place aujourd'hui t'a ôté, de cette égalité dont il n'a fait qu'un leurre, de ta fraternité. Lève-toi, il est l'heure. Éveille-toi, ma France éternelle, toi que j'appelle ici de façon solennelle parce que je veux croire encore en ta fierté, parce qu'en tout, je veux pour toi la vérité. Éveille-toi, ma France chérie, toi que j'appelle encore ma mère patrie parce que chaque fois que ton peuple résiste, je me sens fait de toi. Je sens que tu existes. Éveille-toi, ma France. Et reprends le chemin sur lequel tu guidas jadis le genre humain. Souviens-toi de toi et n'oublie pas qui tu es. Aime-toi quand tu aimes, non pas quand tu es. Éveille-toi, ma France, il est temps maintenant. Sois forte de ton peuple. Il a 5 continents. Cette richesse est tienne, fais-en ton profit, au lieu de devenir celle qui s'en défie. Éveille-toi, ma France, au pouvoir que tu sais être celui que seul ah, le peuple français, le pouvoir de changer le monde, seulement en lui montrant l'exemple du faire autrement. Éveille-toi, ma France. Il ne faut plus sombrer quand du coup de pinceau la toile va sombrer. N'aie pas peur de lever la tête ni le poing, de recevoir le feu même à brûle pour point. Éveille-toi, ma France. Essuie sur tes ergots les traces d'un Bodin ou celles d'un Hugo et que le coq gaulois perché sur tes arcades reprenne le chemin des justes barricades. Éveille-toi, ma France, il ne faut plus douter de ta force lorsque tu dois te révolter, douter de ton destin, douter de ton histoire et lorsque tout s'éteint, douter de ta victoire. Du fond de ma prison sociale et médiatique, je garde vive en moi ta fibre romantique, et même si je suis exclu de tout débat, qu'importe, en Cyrano, je me bats, du fond de ma prison, avec mes camarades. Je pardonne à tous ceux qui m'ont laissé en rade, et je souffre avec eux, mais en gardant l'espoir que bientôt verront clair ceux qui sont dans le noir. Je ferai toujours front, quel que soit le danger, je crois que vient le temps où les temps vont changer. Et dans ce changement, je mets mon espérance. Du fond de ma prison, j'en appelle à la France. Il m'arrive parfois, je l'avoue, de penser que la France n'existe que dans le passé, que la France d'hier où s'échouent tous mes rêves n'est plus brave aujourd'hui, que de façon trop brève. Du fond de ma prison, je pense ainsi parfois, mais je reste à mon poste. Je garde la foi. Et je brandis ma plume à la place du glaive pour exhorter le peuple à prendre la relève. Je dis qu'il est grand temps que la France s'élève et qu'il faut pour cela que son peuple se lève. Lève-toi. Ô mon peuple, et cesse de voter pour les mêmes toujours qui vont te maltraiter, pour les mêmes suppôts de la junte étatique. Cesse de voter pour les partis politiques. Lève-toi, ô mon peuple, et fais ta cohésion, non pas de ce qu'on dit à la télévision, mais de ce que tu vois de source par toi-même et de la solution plutôt que du problème. Lève-toi, ô mon peuple. Et cesse de donner le pouvoir à ceux-là qui, toujours, t'ont berné, élit des citoyens, élit des citoyennes, qui ne soient d'aucune caste politicienne. Lève-toi, ô mon peuple, et fais la société à ton image, non comme elle t'est dictée par ceux qui vont, au nom de la charge qu'ils prennent, substituer leur voix à ta voix suzeraine. Lève-toi, ô mon peuple, et cesse d'accepter que se moquent de toi, élu et coopté. Ne vote plus pour ceux qui t'ont menti avant. Tout ce que les partis t'ont promis, c'est du vent. Lève-toi, ô mon peuple, il te faut d'autres âmes, il te faut d'autres hommes, il te faut d'autres femmes, des gens libres, de toute attache à un parti, ne prends plus pour des grands ceux qui sont des petits. Lève-toi, ô mon peuple, et vois-les comme ils sont. Retournez leurs gilets, festes et caleçons. Nous renier alors qu'ils ne sont rien sans nous, se voir grands parce que nous sommes à genoux. Lève-toi, ô mon peuple, il faut que tu le veuilles, que la branche ne puisse plus dompter ses feuilles. Il faut que l'arbre encore éclate de colère, que souffle un vent nouveau et que le ciel s'éclaire. Lève-toi, ô mon peuple, entends ce que je dis et donne-moi encore un peu de ce crédit que le monde t'accorde lorsqu'il se réfère à ce que tu as fait et que tu peux refaire. Lève-toi, ô mon peuple, et vois ceux qui te mentent. Entends que notre lutte est ce qui les tourmente. Crois en toi, car ils n'en ont plus pour très longtemps. Sois sûr qu'après l'hiver reviendra le printemps. Lève-toi, ô mon peuple, et dresse-toi vraiment contre cette fabrique du consentement sans laquelle jamais rien de ce qu'il advint ne serait arrivé. Parole d'écrivain. Lève-toi, ô mon peuple. Il ne faut plus douter de ta force lorsque tu dois te révolter, douter de ton destin, douter de ton histoire. Et lorsque tu t'éteins, douter de la victoire. Du haut de mon gibet, social et politique, je garde vive en moi la fibre poétique, et même si je suis celui qu'on met à bas, qu'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Du haut de mon gibet, avec mes compagnons, je vois la France en proie à tant de désunion, mais je crois au renfort qui se doit d'arriver. Je crois que les Français vont bientôt se lever. Le peuple, en héritier de ses lointains parents, va relever la tête, il va serrer les rangs, et parce qu'elle place en lui sa délivrance. Du haut de mon gibet, je regarde la France. Il m'arrive parfois, je l'avoue, de penser que la France n'existe que dans le passé et que le peuple dont je parle, dont je rêve, n'est plus celui qui marche, mais celui qui crève. Du haut de mon gibet, je pense à tout cela, mais je sais que la France sera toujours là. Je pense qu'elle attend. Je pense qu'elle veille et que ce qui dormait désormais se réveille. Je dis qu'un peuple uni peut faire des merveilles et qu'en France, il suffit que ce peuple s'éveille. Éveille-toi, ma France.
C'est magnifique, j'en ai des frissons, ben, je viens te voir. Je viens t'embrasser.
Enfin, on va te voir.
Voilà.
Magnifique.
Et nous réussirons.
Oui, oui, oui.
Nous réussirons parce qu'on a confiance dans la France.
Oui. Oui.
Le mot de la fin, cher Francis.
Tout commence et tout commencera toujours. C'est ma devise.
Merci beaucoup, cher Francis. Vous étiez plus de 3700 en même temps. Voilà, remonte le livre à nos amis. Voilà, novimondi.com. Achetez-le, c'est vraiment magnifique. Merci à vous. Passez une bonne soirée et au prochain live.